certaines étoiles perdent de leur éclat au fil du temps.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est le cas de celle de Paul Bocuse et de son restaurant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'établissement mythique d'un des chefs français les plus connus dans le monde vient de perdre sa 3e étoile au guide Michelin.
Sur RTL.
Ce rétrogradage sonne comme un coup de tonnerre dans le milieu de la gastronomie française. Le restaurant de Paul Bocuse constituait un temple pour les gourmets du monde entier.
Bonjour Gwendal Poulenec.
Bonjour. Bonjour.
Soyez bienvenue. Le bienvenu. Vous êtes le directeur des guides Michelin qui font sans cesse l'actualité grâce aux étoiles que vous attribuez, mais aussi à celles que vous retirez. Vous allez nous expliquer tout ça. On va vous poser toutes les questions. Et avant de revenir sur cette affaire Bocuse, c'est quoi une étoile? Qu'est-ce que ça dit du restaurant?
Alors, le guide Michelin est aujourd'hui présent dans plus de 32 pays dans le monde.
Oui.
Et partout, nos étoiles veulent dire la même chose. Elles reconnaissent l'excellence des tables. Une étoile, c'est vaut une étape. Deux, un détour. Et trois étoiles, ça vaut le voyage.
Vaut une étape, ça veut dire, oui, il faut y aller, c'est très bon, de l'entrée au dessert. Tout est validé.
Ce sont des tables excellentes, avec une gradation jusqu'à trois étoiles. Et l'étoile n'est pas attribuée à un chef, mais vraiment récompense le travail d'une équipe. Parce que c'est des expériences vécues sur le terrain par nos inspecteurs professionnels de façon anonyme. Et ces étoiles sont vraiment des recommandations, c'est-à-dire ce sont des indications partagées par Michelin aux gastronomes du monde entier pour leur dire « allez découvrir ces tables, allez-vous à votre tour vous faire plaisir ».
Est-ce qu'il n'y a que des critères gastronomiques, c'est-à-dire la qualité de ce que vos inspecteurs ont goûté, ou alors est-ce que pour avoir trois étoiles, il faut forcément tant de personnes en salle, tant de personnes en cuisine?
Alors, au guide Michelin, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de parti pris.
D'accord.
On regarde tous les établissements avec la même rigueur, la même bienveillance aussi. Mais les critères pour l'étoile sont vraiment liés à la qualité de l'assiette. Le premier, c'est la qualité des produits. Le deuxième, c'est la capacité du chef à faire les transformations culinaires, à maîtriser son art. La troisième, c'est l'harmonie des saveurs, notamment dans les plats. La personnalité du chef telle qu'elle s'exprime dans son assiette, qu'est-ce qu'elle nous fait vivre d'unique au moment où on va aller déguster son plat. Et le dernier point, c'est la constance. C'est-à-dire qu'être bon un jour, c'est pas la même chose que d'être bon toujours. Et nous, on attend en fait cette régularité pour faire des recommandations fiables à tous nos lecteurs.
Est-ce qu'il y a aussi, Gwendal Poulenec, la déco qui compte dans un restaurant, l'accueil aussi, parce que parfois on se plaint en France, on dit oh, les serveurs en France, c'est pas toujours ça quand même.
Ouais, ou le look de l'assiette, parce qu'avec Instagram, il y a de plus en plus de chefs quand même qui font d'abord des belles assiettes. On espère qu'elles sont bonnes aussi, mais elles sont d'abord belles.
Alors pour nous, ce qui compte avant tout, c'est l'expérience, on va dire, c'est le goût.
Ouais.
Pour faire simple, le décorum, le personnel, la brigade, on va pouvoir le décrire, on va pouvoir le faire sentir au lecteur ou même sur Internet avec une belle photo. Mais l'étoile, c'est le talent de l'équipe tel qu'il s'exprime dans l'assiette.
Donc ça veut dire que quand vos inspecteurs, Gwendal Poulenec, sont allés à l'auberge du Pont de Collonges, donc le restaurant Paul Bocuse, qui a perdu sa 3e étoile, ils ont décidé, ils se sont dit « Ah bah non, ça vaut plus, c'est plus aussi bon pour mériter 3 étoiles ». Comment ça se passe? Combien il y a d'inspecteurs qui sont allés manger dans ce resto-là pour dire « Bah non, ça ne mérite plus 3 étoiles ».
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les recommandations du guide Michelin sont mises à jour en intégralité tous les ans. Donc les étoiles, il faut les regagner chaque année. Et ces recommandations sont vraiment le fruit d'un travail de terrain, donc de multiples repas des inspecteurs tout au long de l'année. Et au final...
C'est combien, par exemple? C'est
10 repas? C'est variable, évidemment. Il y a un minimum, il faut y aller au moins une fois par an.
Ouais.
Après, il appartient aussi à l'équipe d'inspecteurs de décider combien de fois il faut y aller pour être capable d'évaluer les 5 critères que je vous ai cités tout à l'heure.
Ah, ils ont open bar, ils peuvent y aller 6 fois, ils vous font la note de frais.
On n'a pas de maximum.
Bah oui,
il faut qu'on arrive à un consensus.
Vous nous avez dit c'est facile d'être bon un jour, il faut être bon toujours. Donc pour évaluer ça, il faut forcément y retourner de temps en temps. Est-ce que vous leur avez annoncé vous-même la nouvelle dans ce restaurant? Parce que c'est vrai que c'est un coup de tonnerre. Paul Bocuse, avec ce qu'il représente, ce qu'il représentait dans l'histoire de la cuisine française, dans son rayonnement à l'international, vous y êtes allé vous-même?
Oui, j'ai fait effectivement le déplacement à Lyon, c'était jeudi dernier, pour annoncer aux équipes du restaurant de Paul Bocuse la nouvelle recommandation des inspecteurs pour le millésime 2020 qui va donc paraître le 27 janvier prochain.
Mais vous faites ça à chaque fois pour tous ceux qui perdent leur étoile? Vous déplacez, vous, le directeur
Non, déplacer physiquement, ça serait tout simplement impossible. Il y a des restaurants partout en France et je veux dire aussi partout dans le monde. En revanche, nous tenons à apprendre aux chefs et à leurs équipes quelle est la décision avant que la presse ne la connaisse, de façon à ce qu'ils puissent faire les annonces et se préparer. Donc oui, nous les prévenons en général quelques jours avant la publication du guide.
Il y a combien d'inspecteurs qui travaillent pour le guide Michelin, pour le guide rouge ?
Alors ça fait partie des choses qu'on ne révèle pas. Ni le nombre d'inspecteurs, ni aucun élément qui permet de faire le lien avec leur identité.
Est-ce qu'ils payent leur repas ?
Oui, ça vous pouvez nous le dire.
Nos inspecteurs vont vivre l'expérience comme de simples clients. Donc ils ne se présentent pas, ils sont anonymes et ils payent l'intégralité de leurs additions, encore une fois, comme de simples clients.
Il y a plus d'hommes que de femmes, ils viennent en couple, ils viennent tout seuls, on veut tout savoir.
Alors ils peuvent venir tout à fait en couple d'hommes, couple de femmes. Mm-hmm. Ils peuvent aussi y aller seuls dans certains cas, ça n'a rien d'inhabituel dans les restaurants aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des femmes dans notre équipe ? Oui, évidemment, il y en a même de plus en plus.
Et est-ce qu'il y a que des Français ou est-ce qu'il y a beaucoup de nationalités représentées parmi ces inspecteurs ?
Alors le guide Michelin est vraiment international, plus de 32 pays couverts aujourd'hui par nos recommandations de restaurants. Mm-hmm. Nous avons plus de 15 nationalités différentes d'inspecteurs. Et nous publions aujourd'hui dans plus de 25 langues.
Mais c'est un job de rêve, ça, inspecteur au guide Michelin. Moi, j'adorerais faire ça plus tard, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est un métier vraiment ou c'est un loisir un peu professionnel ?
Ah non, c'est un vrai métier. C'est des gens qui ont été formés dans le secteur de l'hôtellerie et surtout de la restauration. Oui. Des gens qui ont été en poste, souvent dans des grands établissements, sur plusieurs postes, et qui sont après recrutés par Michelin. Et ce sont des salariés, ils travaillent à temps plein. Il faut savoir qu'un inspecteur fait jusqu'à 400 repas par an.
400 repas, ah oui, alors que... Oui,
quand on est gourmand comme nous, ça nous fait rêver, ça.
Et qu'est-ce qui se passe après ? Il prend des notes, il fait son rapport, il se réunit avec les autres inspecteurs. Il se passe quoi dans les coulisses du guide Michelin ? Et ça se passe où aussi, d'ailleurs ?
Tout commence par un repas anonyme, qui donne lieu, effectivement, après à un compte-rendu, et qui, après, est partagé avec l'ensemble des équipes pour prendre cette décision tant attendue.
Vous n'avez pas terminé votre dîner ?
RTL. Et puis, que ça veut dire tout ça ?
Monsieur Duchemin, les relais des cigales. Ça vous rappelle rien ? Spécialité italienne, du monde tous les jours. Et vous m'avez enlevé mes 2 étoiles !
La curiosité ?
C'est pas très bon,
Est un vilain défaut.
C'est même très mauvais. Toute la journée, je sers de la merde.
Sidonie Bonnec.
Mais au relais des cigales, c'en était déjà.
Thomas Hugues.
Oui, mais c'était moi qui la faisais.
Extrait évidemment du film L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès, avec Coluche, film de Claude Zidi 1976, qui est clairement une référence au guide Michelin. On découvre les secrets du guide rouge avec son directeur Gwendal Poulenec. Et je voudrais avoir une pensée pour Sébastien Demorand. On a appris sa disparition hier. C'est un grand critique gastronomique. Vous l'aviez forcément découvert sur RTL. Oui. Il était chroniqueur, il y avait des émissions, il y avait son émission Ça vaut le goût. Et puis ensuite sur TF1 avec Masterchef. Voilà. On pense à lui, on pense à sa famille. Et on va rebondir sur cet extrait de L'aile ou la cuisse, Gwendal Poulenec, parce qu'il se déguise en femme, si je me souviens bien. Il y a une scène comme ça où Louis de Funès se déguise en vieille dame.
Ouais.
C'est quand même pas arrivé à vos inspecteurs d'aller jusque-là.
Non, alors vous savez, en pratique, on n'a pas besoin de ça parce que... Par principe, on essaye de faire en sorte que les inspecteurs ne retournent jamais 2 fois au même endroit. Et puis, les professionnels voient aussi, les restaurateurs, beaucoup, beaucoup de visages dans la journée. Donc non, on n'a pas besoin de se travestir pour rester anonyme.
Et ça vous est arrivé ? Vous êtes directeur du guide Michelin, mais vous faites partie de la maison depuis une quinzaine d'années, c'est ça ?
Oui.
Ça vous est arrivé d'aller au restaurant avec un inspecteur ?
Évidemment, et un nombre de fois incalculable. Mais par contre, ce qui est amusant, je vais vous le dire, c'était il y a encore à peine quelques jours. Je suis allé dans un restaurant, aujourd'hui les gens me connaissent. Grâce aux médias, donc j'ai été bien traité. vous pouvez vous en douter. Et je me suis aperçu moi-même, en quittant le restaurant, qu'il y avait une table avec des inspecteurs juste à côté de la mienne. Je ne m'en étais moi-même même pas aperçu.
Vos inspecteurs à vous ?
Absolument.
Est-ce qu'ils doivent faire, pour ne pas se faire repérer, justement, ils doivent avoir l'air d'être des clients lambda, comme nous ?
Il faut grogner,
Mais est-ce qu'il y a des choses à faire ? Par exemple, on prend souvent des photos de nos assiettes. Est-ce qu'ils doivent prendre des photos pour ne pas avoir l'air du luberlu ou d'être trop concentrés sur leur repas, par exemple ?
Ah ben, les inspecteurs se comportent comme de simples clients. Et effectivement, aujourd'hui, il est tout à fait commun de prendre des photos dans les restaurants et serait même ne pas en prendre qui serait suspecte.
Alors, c'est vrai que tout le monde fait des photos.
Vous nous avez dit 400 repas, ça c'est la moyenne des repas, enfin du travail, hein, bien sûr, de vos inspecteurs au Guide Michelin. Ça fait donc à peu près 2 repas par jour. C'est hyper calorique, mais comment vous faites pour préserver la santé de vos inspecteurs et inspectrices ?
Alors déjà, nos inspecteurs ont la chance de bien manger puisqu'ils vont dans de bons restaurants.
C'est des bons produits.
Donc ce sont des bons produits, ce sont souvent des menus équilibrés. Après, voilà, à chacun aussi de trouver son éthique personnelle, du sport ou pas, de façon à être capable d'être opérationnel, d'avoir faim tous les jours.
Donc ils ne sont pas tous rondelés, en surpoids.
Loin s'en faut, ils sont même globalement plutôt minces. Mais ce qui les anime au quotidien, en fait, c'est une réelle gourmandise et une incroyable passion.
Mais ils ne prennent pas de notes, parce que sinon ils se feraient repérer. Comment ils font ?
Écoutez, grâce à leur expérience, en fait, ils arrivent vraiment à se souvenir de quasiment tout ce qu'ils mangent, la façon dont les plats ont été préparés. Ouais. Donc il faut beaucoup de mémoire. Et puis effectivement, les rapports sont écrits, mais en sortant du restaurant.
Alors, la question du goût, vous en parlez souvent. Ce qui vous intéresse au Guide Michelin, c'est le goût. Mais j'ai envie de dire, là, on est toute l'équipe de la curiosité, on a tous des goûts différents. Le goût, c'est quand même subjectif. Quand, par exemple, le chef Marc Vera se plaint d'avoir perdu une étoile dans sa maison des bois en Haute-Savoie, il dit, oui, on a dit, mes coquilles Saint-Jacques, elles étaient cotonneuses. Bon, ben, c'est un poisson local, c'est cotonneux, c'est comme ça.
Local, en Haute-Savoie, non, il n'y en a pas beaucoup.
Non, c'est local, c'était du poisson... oui, exactement, bon, en effet.
Oui, on s'est compris.
C'était des bonnes coquilles Saint-Jacques,
oui,
en tout cas.
Voilà,
c'était une variété régionale qui avait ce goût un peu cotonneux. Donc, si l'inspecteur n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Comment vous le rassurez, ce chef ?
Parce que nos inspecteurs sont des professionnels, en fait, qui multiplient les expériences, sont capables, voilà, de juger de la qualité des produits, de la qualité des préparations, avec rigueur, mais aussi avec de la bienveillance et beaucoup de recul. Je vous disais aussi qu'on envoie toujours des profils différents. Dans le temps,
qui ont des goûts différents, vous voulez dire, les inspecteurs ?
Non, en fait, la méthode est homogène. Ouais. On travaille avec les mêmes critères, mais on partage les points de vue.
Il y a de la subjectivité, on ne peut pas le nier, ça.
Il y a une forme de subjectivité, ouais, dans l'appréciation, mais c'est aussi pour ça qu'on fait en sorte que les décisions soient réellement collégiales, pour que les inspecteurs soient d'accord, ensemble, sur la base des expériences qu'ils ont vécues sur le terrain.
Marc Vera vous a attaqué en justice, il a été débouté. Est-ce que vous étiez vraiment surpris ? Parce qu'il y a une pression qui est quand même, si on se met un peu du côté des chefs, il y a une pression qui est très forte sur eux, on le sait. Et la pression que met le Guide Michelin avec ses étoiles, elle est positive et parfois négative.
Le Guide Michelin est la source quand même d'une formidable émulation pour le secteur, et probablement pas étranger à l'incroyable dynamisme de la cuisine, notamment en France. Mm-hmm. Par contre, oui, effectivement, les étoiles ont un réel impact, on en a bien conscience, mais si elles ont un impact, c'est avant tout parce que ce sont des recommandations qui sont massivement suivies par les clients.
Mm-hmm. Et puis il y a des restaurants où le Guide Michelin ne va pas, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons restaurants ? Gwendal Poulenec ?
On fait en sorte de laisser aucun galet qui n'ait pas été retourné chaque année.
Métaphore de breton.
On quadrille, voilà, tout à fait.
Ça longtemps que tu n'es pas encerclé par les Bretons.
Oh, je me sens bien, moi, avec les Bretons.
J'ai bien compris, oui.
Mais chaque année, nos inspecteurs vont vraiment quadriller le territoire. Et dans la sélection que nous avons révélée l'année dernière, vous aviez plus de 75 nouveaux établissements qui ont été promus, dont plein de nouveaux 62 restaurants qui ont eu leur première étoile. Je peux vous assurer qu'il y a des adresses partout en région.
Il y aura encore beaucoup de nouveaux étoilés là. Elle sort quand, la prochaine édition ?
Lundi prochain,
lundi
le 27.
Prochain. Et vous avez des scoops pour nous ?
Alors, des scoops, il va falloir attendre le 27. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nos inspecteurs se sont vraiment régalés l'année dernière, en 2019, et on va vraiment avoir une très belle sélection à dévoiler lundi prochain.
Les nouveaux étoilés, donc ceux qui vont avoir leur première étoile, c'est quoi ? Ça se compte en dizaines ?
Écoutez, ça se compte en dizaines, je ne vous en dirai pas plus.
Ok.
Avoir une étoile aussi, Gwendal Poulenec, c'est l'assurance de pouvoir avoir plus de clientèle, pouvoir aussi multiplier les prix par deux. Il y a un vrai enjeu économique aussi.
Alors, ce n'est pas multiplier les prix par deux. Par contre, le premier point, ce qui est juste, c'est que pour un restaurant qui obtient sa première étoile en région, par exemple, c'est une façon d'avoir une visibilité incroyable. Et la chance que donne le Guide Michelin à tous ces restaurants, c'est d'être traité sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de traitement de faveur, que vous soyez un chef iconique ou un jeune chef qui s'endette à la banque pour ouvrir son restaurant et mener son projet de vie au bout, ils auront vraiment évalué par nos inspecteurs avec la même vigilance, la même rigueur et la même bienveillance.
Voici votre table, monsieur Rolex et monsieur Swatch. Bon appétit.
Merci, monsieur. T'as de la chance qu'il ait cru au nom de la réservation. Pas quoi, j'ai appelé trois fois en disant Poitou et Pichard, ça n'a jamais marché.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Excusez-moi, le chiffre à côté des bouteilles de vin, c'est l'année?
Non, c'est le prix, monsieur.
La curiosité est un vilain défaut.
D'accord, bon, je prends un diabolo fraise, moi. Non, non plus.
Ah oui.
Non, on va prendre de l'eau.
RTL.
Une eau minérale.
Non, le pichet, une chiotte.
Quand le palmachot va dans un restaurant chic, eh bien ça donne ça. Et nous, on découvre les coulisses de l'eau. C'est bien de l'eau aussi.
Ouais.
Je prendrai juste un peu de pain, la corbeille de pain. Merci. Les coulisses du Guide Michelin avec Gwendal Poulenec, directeur des Guides Michelin. Forcément, quand on choisit un restaurant entre les pages de ce guide rouge, c'est forcément un restaurant onéreux.
Non, loin s'en faut. En fait, dans le guide Michelin, vous avez plus de 3700 restaurants,
oui.
Et dont 600 seulement sont des restaurants étoilés. Et même parmi ces restaurants étoilés, il faut considérer qu'il n'y a même pas une centaine de restaurants qui peuvent être considérés comme des restaurants de luxe. Vous avez en France des restaurants où vous pouvez manger à l'étoile pour moins de 39 euros.
Est-ce qu'il y a des étoilés qui sont bio, qui ont des produits plutôt bio, de saison, bon ça c'est la base, mais bio? Est-ce qu'il y a des étoilés qui font attention aux gens qui sont allergiques au gluten ou aux gens qui ont choisi un régime alimentaire, qui sont végétariens ou véganes? Est-ce que ça c'est entré? Et dans le guide qui sort le 27 janvier, le guide Michelin 2020, on peut découvrir ça?
Alors oui, ces tendances sont reflétées par nos inspecteurs qui les observent effectivement sur le terrain. Et en fait, il y a de plus en plus de restaurants qui prêtent une réelle attention au choix des produits, à la saisonnalité, au respect des ingrédients aussi dans leur transformation.
Et vous n'avez pas d'étoilés véganes quand même?
Alors, en France, non. En
oui.
revanche, nous avons ailleurs dans le monde des restaurants véganes ou d'autres types de cuisine que nous n'avons pas dans l'Hexagone. Mais ce qui est important de noter, c'est que en fait, de plus en plus, notamment une jeune génération de chefs, ouvre des établissements en province, souvent pour être même au plus près de la source du produit. Et avoir un projet qui est à la fois cohérent d'un point de vue environnemental et accompagner ça d'un vrai projet de vie.
Mais ça veut dire que les chefs étoilés sont plus jeunes qu'avant? C'est-à-dire ceux qui accèdent à la première étoile, ils accèdent à cette étoile plus tôt, plus jeunes?
Alors je vais vous dire qu'il y a effectivement peut-être de plus en plus de jeunes chefs qui prennent le risque de se lancer à leur compte. Mais on parlait de Paul Bocuse tout à l'heure. Vous savez, Paul Bocuse, lorsqu'il a eu sa troisième étoile, avait seulement 39 ans.
Il est né, le guide Michelin, il y a 120 ans. Ce sont les frères Michelin qui l'inventent. Pourquoi ils l'inventent et à quoi? Si on le feuillette avec vous, ce tout premier guide Michelin, qu'est-ce qu'on y trouvait dedans?
Alors, dans le premier guide Michelin, qui a été lancé en 1900, il y avait essentiellement des informations pratiques qui étaient là pour aider l'automobiliste à se déplacer, ouais. Les garages, les stocks d'essence, puis les hôtels, puis après les restaurants. Et en fait, progressivement, voyager est devenu moins une aventure technique et périlleuse. Donc, le guide Michelin a accompagné ça en devenant plus un guide d'agrément. Il ne s'agissait pas juste d'avoir des adresses utiles, mais des adresses agréables. Et la définition des étoiles, lorsqu'elle dit un 3 étoiles vaut le voyage, c'est de faire un restaurant une vraie destination.
Donc ça veut dire que les premiers étoilés de l'histoire en fait des étoiles du guide Michelin, c'était des restos routiers?
Alors,
ça a commencé simplement en fait finalement.
Oh, ben le guide Michelin est resté simple. Vous avez des adresses encore très simples dans le guide. Ce que je veux simplement dire, c'est que le guide Michelin a adapté son contenu aux besoins de l'époque. Mais aujourd'hui, le guide est vraiment un vrai guide gastronomique. Et les étoiles que nous connaissons aujourd'hui sont nées au tout début des années 1930.
Donc aujourd'hui, le summum, c'est la troisième étoile. Ça me rappelle les années où j'essayais d'être bon en ski. Est-ce que vous imaginez créer des restaurants 4 étoiles?
Alors, c'est pas au programme aujourd'hui. Ouais. Par contre, vous savez, 3 étoiles, c'est vraiment une note d'excellence. Mm-hmm. Dans les 32 pays couverts aujourd'hui par le guide Michelin, vous avez à peine 130 restaurants à 3 étoiles.
Oui, c'est vraiment.
Est-ce qu'il y a des femmes étoilées aussi? Plus de femmes étoilées, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein.
Ah, il y a de plus en plus de femmes étoilées. Vous savez, l'année dernière, dans notre promotion 2019, ouais. Il y avait 11 établissements tenus par des femmes chefs.
Alors, 11 établissements étoilés,
sur les étoilés.
600 étoilés.
Sur les 600, c'est pas énorme.
C'est rien.
Sur la promotion de 75 étoilés. Je parlais des nouveaux.
Ah, d'accord.
Donc, non, il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes de responsabilité en cuisine. Michelin les met en valeur. Par contre, Michelin n'a pas de quota.
Le guide, c'est un objet qu'on peut emporter avec soi, qu'on a dans la voiture, qu'on a, etc. Est-ce qu'il a une existence numérique ou est-ce que vous imaginez son existence future? Parce que c'est vrai que voilà, la version virtuelle va peut-être prendre le pas.
Je vais vous dire, c'est déjà le cas depuis, ouais. depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que sur le numérique, vous pouvez accéder aux sélections du guide Michelin, que ce soit maintenant par application, mais avant au travers des sites internet. Mm-hmm. Et l'audience du guide Michelin en France et dans le monde est aujourd'hui très, très largement numérique.
Mais c'est payant ?
Non, vous pouvez accéder gratuitement aux recommandations du guide Michelin si vous allez simplement sur le site du guide Michelin.
Ouais. Ah oui, toutes les recommandations.
Tout, le texte des inspecteurs, les photos.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.